Bonjour, c'est Monique à Paris 17e. Je vous appelle pour la raison suivante. Régal l'émission sur le salon de Christiane, les bigoudis, les coups de peigne et les points de vue, images du monde. Ah, ça m'a rappelé les émissions qui faisaient de la radio un théâtre populaire. Et ben, écoutez, quand même, félicitations. C'était pour beaucoup de personnes un moment de souvenir, quoi, sur ce qu'était la radio. Eh bien, vous êtes des grands artisans de la radio.
Et bonjour, c'est Charolois de Saône-et-Loire. Je me demande si on n'est pas en train de nous enfumer avec le déficit de la Sécu soi-disant abyssal, plus le déficit public record pour mieux nous faire avaler les réformes diverses et variées qui nous plongent de plus en plus dans la précarité et pour certains dans la misère. Je sais pas votre avis, moi c'est le mien. À bientôt.
Bonjour, c'est bientôt le 60e anniversaire du programme national de la résistance. Il sera commémoré un peu partout en France. Ce programme voulait assurer la liberté de la presse, son honneur, son indépendance, instaurer une véritable démocratie économique et sociale, le droit au travail et une réglementation des conditions d'embauche et de licenciement, la garantie d'un niveau de salaire qui assure à chaque travailleur, à sa famille, la sécurité, la dignité, un plan complet de sécurité sociale, une retraite. L'essentiel de ces objectifs a été repris dans le préambule de notre Constitution de 58. Pourtant aujourd'hui, les attaques contre ces acquis se multiplient en Europe et en France, orchestrées par le Fonds monétaire international et soutenues par les organisations patronales de tous les pays. Parce que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants les idéaux que les résistants nous ont eux-mêmes transmis, nous avons aujourd'hui à résister. Attaque Canegras et l'association citoyenne de Moinsartou organise cet événement à sa manière, donc une exposition à la médiathèque de Moinsartou, une manifestation à Grasse, à Moinsartou, au Canet, de 10h à 11h, puis nous nous retrouvons devant la médiathèque de Moinsartou à 11h30 pour écouter le témoignage d'un grand résistant, André Verdet. Nous comptons sur votre présence de citoyens dans la région. Merci pour le contact. Attaque Canegras, 04 92 92 04 40. Ciao.
Oui, bonjour, je suis lycéenne dans un petit lycée de 300 personnes en Ariège et si je laisse un message ici, c'est parce que je sais que votre émission laisse une grande liberté d'expression. Nous sommes lycéens et nous organisons une manif lundi 15 mars pour dire non au mépris de nos dirigeants qui jour après jour sécurisent les plus riches et précarisent les plus pauvres, pour dire non aux ministres qui confondent bandits et étudiants, pour dire non à la disparition de notre esprit critique et pour dire oui au libre accès à la culture, à l'éducation, à la recherche, à la santé, pour dire oui à l'égalité des chances, pour dire oui à la créativité, au respect de tous et aux libertés fondamentales. Nous voulons que les gens sachent que malgré tout ce qu'on dit, la jeunesse est motivée et compte tout ce qui se prépare en ce moment. Nous sommes soucieux du monde dans lequel on vit. Merci beaucoup, au revoir.
Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà comment la jeunesse, les lycéens, la lycéenne de l'Ariège reprend le flambeau, la lutte continue. Et on ne faut pas tout à fait désespérer, quoique il y aurait bien des raisons ces jours-ci. Et en tout cas, demain, on fera effectivement avec Guy Ventil une émission sur ce 60e anniversaire de ce fameux programme national de la résistance un petit peu partout en France, organisé par Attaque, par le journal L'Humanité et beaucoup d'autres. On va revenir, et pour beaucoup d'entre nous, découvrir ce que fut ce programme national de la résistance né pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, au sein du Conseil national de la résistance qui avait projeté un autre monde, voilà, un autre monde de solidarité, de liberté, de fraternité, etc. Et c'est vrai que c'est un peu à peu ce grand rêve qui s'est en partie réalisé a été grignoté avec ce grand bond en arrière que nous sommes en train d'accomplir. Alors aujourd'hui, on va aller au salon de l'agriculture. Ouais, on va aller, nous aussi, à notre tour, il n'y a pas de raison, flatter le cul des vaches. Merci au fait à cette auditrice pour ses remerciements sur le reportage d'hier dans le salon de coiffure de Boulogne-Billancourt. On a eu beaucoup de messages très sympas. C'était un reportage de Claire Otter et les dames du salon hier ont dit que c'était formidable parce que le chien de Christiane, de la patronne, a été tellement heureux d'entendre sa maîtresse pendant une heure qu'il a aboyé pendant une heure dans le salon. Donc c'était vraiment un très grand moment. Donc on va au salon de l'agriculture aujourd'hui avec Thierry Scharf et Gilles Luneau. Et auparavant d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Mercredi 17 mars 2004 à Paris, grève et manifestation nationale contre le projet de loi dit de prévention de la délinquance. Voici une série de mesures préconisées par rapport à cette loi. Ouvrez bien vos oreilles. Les dispositifs de vidéosurveillance seront étendus aux immeubles collectifs. Mise en place d'une police des transports. Facilitation des expulsions locatives. Centres de loisirs encadrés par la police. Repérage des troubles du comportement des enfants. En cas d'absentéisme scolaire, prise en main et gestion des allocations familiales par le maire. Amende pénale jusqu'à 750 euros. Stage de parentalité obligatoire. Non, non, vous ne rêvez pas. Le meilleur est encore à venir. Le retour des défilés patriotiques pour les élèves. Création d'un corps de cadets de la police. Création d'un service civil. Repérage et promotion des meilleurs éléments. Et voilà. En quelle année sommes-nous ?
Salut, c'est Bruno du Cantal. Pendant un voyage dans le nord de la France en décembre, j'ai pu m'apercevoir du mal immense fait à une population au nom du sacro-saint profit. J'ai pu m'apercevoir du cynisme morbide et de la condescendance bouffonne d'un Raffarin, d'un Sarkozy. Est-ce que leur vie vaut mieux que celle de ces gens qui vivaient heureux dans la solidarité et l'hospitalité ? Les villes entières sont plongées dans l'angoisse et le vide. La joie de vivre, de travailler, de lutter ensemble a laissé la place au sauve-qui-peut. 87% d'augmentation pour les patrons des 40 plus grosses entreprises françaises et suppression des ACEDIC pour 180 000 chômeurs. Ça s'appelle la France d'en haut et la France d'en bas. Alors Raffarin, ton paternalisme suffisant pourrait se changer en peur, cette peur que tu manies avec brio n'est qu'une bombe à retardement. Tous ces gens du Nord et d'ailleurs, victimes de ton mépris, vont bientôt se retrouver ensemble, sans pas grand-chose à perdre, pour marcher vers vos ministères, vos résidences secondaires et tous vos trous à rats, pour vous en faire sortir et goûter aux joies de la misère. Il faut, paraît-il, savoir dire non. Mais 68 sera une kermesse de fin d'année à côté de ce qui vous attend. Tremblez, carcasse. Salut.
Je sais pas c'est quoi, je t'aime. Je sais pas c'est quoi, je t'aime. C'est passé par le fil d'un poème. Je sais pas c'est quoi, je t'aime. Je préfère dire j'ai besoin de toi. Le verbe aimer c'est une soupière à faire avorter les soupirs des amoureux de la terre entière. Faut pas le dire, faut le faire. Je sais pas c'est quoi, je t'aime. C'est passé par le sang dans mes veines. Je sais pas c'est quoi, je t'aime. Mais j'ai payé pour dire, c'est pas ça. Faut pas le dire, faut le faire. Dans ton sourire, dans tes manières, dans tes paroles, dans ta prière. Et le reste après, ça viendra. Je sais pas c'est quoi l'amour. C'est passé par le fil d'un tambour. Par le fil d'un sabre de peine.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf là-bas. Si j'y suis au salon de l'agriculture.
Flight number 2, arriving from
C'est une vraie mythologie, ce salon de l'agriculture.
Ouais, je crois que c'est un rituel. C'est un rituel aussi bien pour les provinciaux que pour les Parisiens ou disons les gens de l'Île-de-France. Pourquoi? Ben parce que je crois que d'une part, ben pour les citadins, ils viennent voir la campagne. Hein, ils viennent respirer l'odeur de la paille mélangée à la bouse. Ils viennent toucher le cul des vaches. Ils viennent voir. C'est une leçon de choses pour les enfants aussi. C'est pour certains retrouver des racines. Et puis pour
ouais, c'est ça.
Pour les gens de province, c'est aussi une manière de se voir dans la glace. Hein. Je crois qu'il y a l'effet miroir aussi. Hein. Qu'on soit agriculteur ou qu'on soit un provincial d'un petit rural. Il y a
Bien, c'est exemple. Combien de mètres carrés?
260 000 mètres carrés.
C'est énorme. Non, c'est-à-dire que énorme, quasiment toutes les exécutions là, de la porte de Verrières qui est quand même énorme. Tout occupé par ça.
Alors voilà, vous sentez déjà la luzerne. Vous la sentez, la luzerne? Et la paille dans la grange, les après-midi d'été. Et le laguiole qui glisse sur le fromage, sur la tome de chèvre, et le pantalon de velours côtelé, ah! Oui, les mythologies rurales. On y est attaché. Et pas seulement ceux qui ont déjà quelques heures de vol, mais ça se transmet. On emmène les enfants ce salon de l'agriculture pour, comme le dit Gilles Luneau, une leçon de choses, retrouver les racines. Et oui, c'est joli, on rêve, sauf que on va voir comment ça se passe avec nos yeux à nous, nos yeux évidemment critiques, ceux de Thierry Scharf et ceux de Gilles Luneau, qui est écrivain, qui est journaliste et qui sort un énorme pavé, si on peut vraiment employer le mot pavé avec lui, qui s'appelle La forteresse agricole, c'est chez Fayard, et c'est une histoire de la FNSEA qui, vous le savez, rencontre aujourd'hui quelques problèmes, cette FNSEA. Avant d'entrer dans ce salon de l'agriculture avec Thierry et Gilles, et je voudrais vous rappeler ce que furent les villages Potemkin. Les villages Potemkin, eh bien, il y avait un gars qui s'appelait Potemkin, on l'a oublié, hein, et il était ministre de la guerre, de la tsarine, de la grande Catherine II, et en 1787, il fit visiter à la grande Catherine et à ses invités d'éminents personnalités, monarques étrangers, un endroit absolument merveilleux. C'était des villages où tout était superbe, où tout marchait bien, où tout était avec des gentils fermiers, avec des jolies choses, avec des jolies vaches, et tout le forgeron forgeait, la vache avait du lait, la fermière chantait, et tout ça c'était en carton-pâte. Et il faisait croire et on faisait semblant de croire. On nous dit aujourd'hui, les historiens nous disent que personne n'a jamais, ce Potemkin n'a jamais fait cette chose-là, que c'est une légende. Mais je trouve cette légende est superbe puisqu'on a commencé par parler de mythe. Voilà un mythe qui est superbe. D'autant plus qu'il s'est prolongé. C'est-à-dire que le petit père des peuples, notre Joseph Staline, faisait la même chose. Pendant les années de communisme soviétique, on a reconstitué des villages Potemkin sur le même principe et d'éminents visiteurs étrangers, dirigeants étrangers et notamment français, se sont fait prendre au piège de ces villages et sont revenus. Alors, ils disaient, faites-nous visiter quelque chose d'original, hein, une petite ville. Et bien sûr, alors, on les amenait dans une ville et l'usine fumait bien comme il faut. Et puis tout le monde était heureux, tout le monde était souriant, des femmes avec les joues roses, des hommes musclés, travailleurs, blonds, et avec des beaux enfants pétants de santé. Et puis alors les émissaires étrangers disaient, oui mais faites-nous visiter un autre village. Qu'à cela ne tienne, on remontait dans l'auto et on faisait quelques kilomètres. Et là on tombait, comme par hasard, mais vraiment, visite surprise, sur un autre village. Et c'était aussi merveilleux, c'était extraordinaire. Alors il revenait en France en disant, oh, c'est merveilleux, l'URSS, c'est vraiment arrivé ce que je vous raconte là. Voilà, gardons cette image en tête en rentrant dans ce salon de l'agriculture aujourd'hui à Paris, à la porte de Versailles. Il a fermé ses portes, mais il est inoubliable.
La couenne, le mou, couenne, mou, tui, port, le saucisson. que c'est bon. Le saucisson, c'est vachement bon. Le saucisson de ma région, à qui il est bon, à qui il est bon. Mon saucisson, il est fait bien ça.
On va rentrer.
Ah,
premier truc RTL.
Oui, c'est nos confrères,
nos concurrents. Bien installé avec un énorme stand. Hein.
Ce qui est quand même surprenant et un peu bon, un peu estomacant. On a en face de nous à gauche le service de presse du salon et immédiatement en face on a un stand McDonald's.
Ah la vache oui. McDo, RTL.
Bon, c'est quand même étonnant quand on sait ce que McDo nous met dans l'assiette d'une part, hein, de piètre qualité. Il trône comme ça à l'entrée, quoi. Puis c'est un grand stand. Voilà.
Comment on pousse le McDo ? Il y a écrit sur le...
Incroyable, ouais.
Là, ils ont installé une vitrine et tout le monde a des petits prospectus McDo. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous regardez, là ?
On cherche la réponse à la question.
Quelle question ?
À celle-ci, la viande bovine. Quel morceau n'entre pas dans la composition des steaks hachés fabriqués par Mackey pour McDonald's ?
Par Mickey ?
Mackey. Le paleron, la hampe ou le collier ?
Et alors là, vous gagnez quelque chose si vous répondez à ça ?
Oui, des incollables.
Des incollables, c'est quoi ?
Petit jeu pour les enfants.
Alors, il y a une petite exposition, un petit truc sur Cargill. Cargill, c'est quoi ?
Cargill, c'est, on est toujours sur le stand de McDonald's. Cargill, c'est un des très gros opérateurs américains. En particulier, on lui doit une grande partie de l'importation du soja en France.
Préparation à base de viande de poulet. Ça donne pas très envie tout ça. Hein. Les poulets élevés pour Cargill grandissent dans des poulaillers couverts et tempérés de 1000 à 1500 mètres carrés.
C'est-à-dire, on voit les euphémismes dans la langue. C'est-à-dire que on est en train de nous vanter de l'élevage industriel où les poulets certes sont dans des poulaillers tempérés de 1000 à 1500 mètres carrés. Ce qu'on dit pas, c'est qu'en gros il y a 29 poulets au mètre carré ou 30 poulets et on nous dit qu'ils se déplacent librement sur une litière végétale où il peut se nourrir et s'abreuver à sa guise. C'est-à-dire que le poulet voit pas le jour, mange pas d'herbe, n'a pas de grain de sable pour son gésier, s'atrophie les ailes parce qu'il est collé à son voisin. Un poulet normal, il faut 90 jours pour le faire, voire plus, 90 à 120 jours pour qu'il soit bon à la consommation. Là on l'a en 30 jours, en 32 jours, en 33 jours.
Et pourtant, la com marche, hein, parce que tout le monde a son petit dépliant McDo à la main, tout le monde fait un petit jeu.
La sécurité alimentaire a toujours été au cœur de nos préoccupations. Depuis toujours, nous faisons nos steaks hachés avec une viande de qualité. Nos hamburgers sont 100% pur bœuf, que du muscle. Nous identifions la provenance de tous les animaux. Un organisme indépendant contrôle la chaîne d'approvisionnement de l'abattoir au restaurant. Tout ça pour que venir chez McDonald's soit toujours un plaisir. Nous faisons des hamburgers et nous les faisons bien.
Il y a un truc trop bon dans mon Yokoshak.
Alors là, on arrive au village du cochon, l'impressionnant village du cochon.
Oui, là, il y a de la surface, hein, c'est énorme. Ils nous ont même reconstitué un manège d'enfants. On a quand même les cochons devant nous, là.
Ah oui, il y a tellement de monde, on voit rien. Mais ils sont vautrés dans des espèces d'enclos là avec de la paille.
Oui, on voit des cochons heureux, hein, bien vautrés sur de la paille. C'est pas forcément le cas quand ils sont sur leur caillebotis dans les élevages industriels. Hein. Là c'est un porc gascon, le porc noir. Ça donne un excellent jambon et du bon lard. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est dans ce genre de présentation, on va voir. Un tas de races de porcs différents. On voit porc de Bayeux, le blanc de l'Ouest, le porc basque, le porc gascon. Et en fait, ça correspond pas à la réalité. La réalité, c'est je veux dire, il y a un ou deux types de races qui sont utilisées dans les élevages en batterie, qui sont l'essentiel de la production porcine. Voilà. Moi, je suis toujours étonné quand je suis dans ce genre de lieu parce que le porc traverse une crise très difficile, enfin dramatique, avec une chute des cours. Gigantesque. Alors c'est la première vente consommée, donc on peut se poser des questions sur la véracité des lois économiques. Et on n'a rien. On nous vante le cochon. Par contre, on nous parle pas des éleveurs. Alors qu'en fait, quand même, l'agriculture c'est d'abord des hommes. c'est d'abord des hommes, et ici le produit efface l'homme, en fait. Ce qui est quand même assez inquiétant comme image qu'on renvoie aux citadins qui visitent, hein. C'est-à-dire qu'il vient ici pour découvrir la campagne et on lui présente une campagne donc réduite ou aux animaux, ou aux produits McDo, ou aux Nestlé en tube. Enfin, je veux dire, c'est quand même inquiétant sur ce qu'on sème dans l'imaginaire des gens.
Alors là, il y a une cage qui attire la curiosité. Il y a beaucoup de monde qui se presse devant.
Là, c'est ça, c'est une truie.
Ah, c'est une truie avec ses petits.
Sa portée, voilà. Donc là, on est, c'est du porc de Bayeux.
C'est extraordinaire, ça. J'adore les cochons. Ah oui, on a regardé ça. On a nos regards. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Il a le derrière tout rose. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est adorable.
Je crois que c'est fondamental à l'homme de chercher le rapport à l'animal. Donc, on n'a pas toujours l'occasion, quand on vit en ville, d'avoir un contact avec le vivant comme ça. Quoi, hein.
Alors, les gens sortent leurs appareils photo, là. Vous faites combien de photos, monsieur, dans la journée, là?
Une cinquantaine. Ouais, ma fille aime bien les cochons, donc j'en prends pour elle. J'ai appris que maximum 13 petits, une portée, pas au-dessus. Donc on en apprend tout le temps, à chaque fois qu'on vient.
Je suis un petit cochon, tout rose et puis tout mignon. J'ai la queue en tire-bouchon.
Un véritable trompe-l'œil, c'est qu'on nous présente un village du cochon avec des porcs heureux.
Hein, voilà.
On nous aurait reconstitué ici un bâtiment d'élevage porcin réel où on rentre quasiment avec un masque tellement c'est irrespirable.
Ce qui est la réalité écrasante de la production.
Il
hein.
suffit d'aller en Bretagne. Hein. Oui.
C'est quoi les chiffres, les proportions? Sur 10 morceaux de cochon, de porc qu'on achète, il y en a quoi? Il y en a 8 pour l'agriculture industrielle.
Oui, 8 à 9.
Ouais. 8 à 9.
8 à 9, oui.
C'est 90%.
Oui, bien sûr. Oui. En Bretagne, il y a plus de cochons que de bretons. La question à un franc, c'est par quoi a-t-on remplacé les farines animales dans les aliments pour cochons, par exemple? Même les éleveurs ne le savent pas. Hein, c'est-à-dire que les fabricants d'aliments pour cochons ont remplacé l'apport que vous allez farine animale par autre chose, dont on ignore, c'est caché par le secret industriel. Si c'est des molécules de synthèse, on en ignore leurs répercussions. Ce qu'on sait aussi, c'est quand même, en gros, les volumes importants d'antibiotiques qu'on met dans l'eau d'alimentation, hein, qui posent des questions, parce que c'est des molécules qui habituent le corps humain à l'antibiotique, ce qui fait qu'après, il est inefficace quand vous en avez besoin.
C'est effrayant, là, ce que vous nous racontez, là.
Si vous voulez, c'est un abus de confiance par rapport aux consommateurs, et c'est un abus aussi par rapport aux éleveurs. Parce que les éleveurs vivent dans des situations dramatiques qui leur sont imposées, hein, par les filières. C'est-à-dire que pourquoi il y a ce type d'élevage? C'est parce que les grandes surfaces, les Auchan, les Carrefour, les Leclerc, les McDo pour la viande exigent des volumes et des prix très très bas, qui fait que pour satisfaire la demande de la grande distribution et des opérateurs industriels sur la nourriture, on fait ce type d'élevage. Hein, je veux dire, c'est pas pour obéir au désir du consommateur.
Vous attendez votre tour là, monsieur?
Bah, bien sûr. Comme d'habitude, il faut attendre son tour.
Et comment il s'appelle votre taureau, là?
Pacha.
Pacha?
Oui.
Ah, vous êtes un peu anxieux, là, alors?
Eh bien, bien sûr. Hein. On ne sait pas comment ça va être placé. Alors, le cœur, il tape un peu.
Et oui, il n'y a pas que les Césars, les Molières. Il y a aussi, au Salon de l'Agriculture, le cœur qui tape un peu. Rien que quand on a son taureau, là, qui va, qui concourt. Voilà, c'est le canne des vaches, hein. C'est oui, pourquoi pas? Ben oui, on les aime bien, ces animaux. Et c'est vrai qu'aller au Salon de l'Agriculture, à la porte de Versailles, c'est immense, hein. 700 000 visiteurs, 1134 exposants, 1899 journalistes accrédités cette année, 4000 articles de presse, 39 heures de reportage radio, 38 heures de reportage télévision, 8376 panneaux piano sur les arrières des bus, des 4+3, etc. Enfin, c'est un déploiement extraordinaire. C'est la vitrine. Alors, c'est la vitrine. Et ben là, on se balade avec Gilles Luneau et Thierry Scharf, un petit peu dans les coulisses. Un petit peu dans les coulisses. Parce que derrière cette vitrine, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude pour les paysans, pour les agriculteurs français. C'est pas tellement la joie. Et le productivisme, ça a été ça après la Deuxième Guerre mondiale. Le productivisme subventionné. D'ailleurs, le bilan est mitigé, disons. C'est vrai que tout le monde mange dans ce pays, et plutôt bien. On va pas faire comme si. Quoique, qu'est-ce qu'il y a exactement dans nos assiettes? Mais ce productivisme, d'abord, a entraîné au niveau de la société rurale française des dégâts considérables, destruction du tissu social, désertification du pays. Nous, on traverse ce pays à toute vitesse sur des autoroutes ou dans des TGV, etc. On le voit plus, ce pays, on va le voir. Je parle comme un urbain, je parle comme un citadin, et en plus comme un parisien. On le connaît pas, ce pays, on y va en vacances, c'est joli, on fait un petit peu comme là, au salon de l'agriculture, on joue à une campagne rurale nostalgique. On n'est pas si dupe que ça. On sait bien que la page est tournée. Mais enfin, quand on va dans cette campagne française, eh ben, on est bien obligé de constater, sinon les dégâts sociaux, à défaut de les constater, il faut vraiment s'y intéresser. Mais les dégâts environnementaux sont considérables. On mange bien, personne ne meurt de faim dans ce pays, mais enfin, on sait très bien la bouffe de merde qui gagne de plus en plus. Une homogénéisation des produits également, parce qu'on nous fait croire qu'il y a une variété, il y a un choix, etc. Et on va le voir une fois de plus avec Gilles Luneau. C'est une illusion de ce village Potemkin dont je parlais au début, dans lequel nous nous trouvons. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que l'agriculture, c'est de la culture, c'est une vieille histoire. Et un sociologue comme Patrick Champ voit dans la disparition du monde paysan quelque chose qui a préfiguré les effets du néolibéralisme sur le monde ouvrier et le monde populaire. D'où, selon toujours Patrick Champagne, ce sociologue, la popularité de José Bové qui incarne un peu cette figure du paysan, même si Bové est un néo-rural, cette figure du paysan. Il y a à la fois au salon de l'agriculture des gens qui viennent avec les gosses pour le plaisir, la leçon de choses, l'enchantement, dupe ou pas dupe, mais aussi une nostalgie d'un monde évanoui, d'un monde aboli, c'est vrai, mais qui s'est aboli souvent pour de bien mauvaises raisons. Au nom du chantage à l'archaïsme, c'est-à-dire qu'il fallait être moderne, il faut être moderne, 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 et si vous n'êtes pas moderne, vous êtes ringard, vous êtes archaïque, vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas dans le vent, et évidemment, personne ne veut être vieux, personne ne veut passer pour un conservateur agrippé, et à ses racines, hein, et ça a été un élément de ce chantage qui a amené un productivisme de plus en plus destructeur. On continue la visite de ce salon d'agriculture, Gilles Luneau et Thierry Scharf.
Bonjour, qu'est-ce qui se passe là?
C'est la présentation de la vache limousine.
C'est-à-dire?
Les vaches vont sur le ring et sont présentées pour le concours.
Voici donc le résultat de la section des taureaux âgés de 19 à 28 mois. Alors dès la première section, on met en évidence une des qualités de la race limousine, c'est la largeur des bassins. Vous êtes le cinquième à l'avoir remarqué, vous regardez les quatre premiers, ont vraiment des largeurs de bassins tout à fait correctes, voire même exceptionnelles pour le premier. Je voudrais que vous gardiez comme image de la race limousine aujourd'hui le bassin pour deux raisons. Premièrement, pour les qualités de vélage, bien sûr, autant la largeur et la longueur du bassin sont importants dans ce domaine, mais également parce que c'est là que se trouvent tous les morceaux nobles, les morceaux qui...
Ah, c'est une vraie scène ici, hein.
Tous les morceaux agréés.
Ah oui, là, on est dans les...
C'est vraiment pour ça qu'on travaille.
C'est le...
le Cannes des vaches.
Hein. J'ai donc classé cinquième
le festival.
Oui, le festival. Oui, je sais que
l'ai-je bien descendu.
Voilà, c'est ça exactement. Donc là, on a une présentation de race limousine, de taureau limousin.
Alors il y a sur une arène des bêtes qui sont bien alignées, là, bien peignées, bien avec des gars qui les montrent.
Il y a des règles, les éleveurs en chemisette blanche. Derrière, il y a tout l'honneur, tout l'orgueil d'un éleveur d'avoir élevé un animal qui a déjà été présélectionné et qui peut gagner le concours général agricole. On le regarde là-bas, il brosse.
Sponsorisé par le Crédit Agricole, par Nestlé.
Oui, ça, c'est, on va y revenir. Mais regardez les brosser à repousse poil pour faire friser la croupe, là, et les queues peignées. C'est extraordinaire. Alors derrière, il y a des enjeux économiques, hein. C'est-à-dire que suivant le classement, il va y avoir après achat du taureau, peut-être par un centre d'insémination, on va vendre le sperme du taureau pour faire d'autres animaux, quoi, genre pour la reproduction.
Un taureau exceptionnel dans ses largeurs de bassin. Regardez-moi les largeurs hanches, les largeurs au trochanter, la largeur de culotte de cet animal, de superbes masses musculaires dans son dos. Et surtout, une profondeur de poitrine exceptionnelle. Je vous demande tous de l'applaudir. Merci.
Alors là, la bête monte sur le podium. Énorme engin, hein.
Ah oui, c'est des engins qui font une tonne et demie, une tonne sept, une tonne huit. C'est des très beaux animaux, hein, je veux dire.
Trompeur qui est monté sur le podium. Trompeur qui remporte donc le premier prix de cette première section mâle. Je vous le rappelle, il appartient au gars Pimpin Frère, éleveur à Bénac en Haute-Vienne. Trompeur est né le 6 janvier 2002. Il pèse actuellement 1221 kilos. Donc un taureau très complet, comme vous l'a décrit le juge, avec très très bon contrôle.
C'est vraiment le festival, hein. Il y a les photographes avec les flashs qui crépitent, il y a la télé qui est là, il y a un public nombreux.
Et puis il y a des codes, c'est-à-dire que l'animal est arrêté dans une certaine position, les pattes posées dans une certaine position, qui va valoriser la manière dont il présente l'ensemble de sa carcasse.
Pour ce premier prix, cette première section de balle, beaucoup d'applaudissements, j'ai dit, c'est vrai qu'il est midi. Il faut glisser miquette, mais ne laissez pas dépasser.
Il faut voir que des sélections de reproducteurs comme ça, on va s'en servir pour améliorer les espèces. C'est-à-dire que une vache qui a des faiblesses dans les hanches, on va la faire couvrir par un taureau qui a des fortes hanches, ce qui fait que la génisse dont elle va véler va avoir déjà un meilleur bassin, donc va mieux véler. On va améliorer comme ça successivement de génération en génération. C'est ce qu'on appelle la sélection génétique.
L'animal qui suit, c'est Suffrage, donc né le 19 avril 2001. C'est un fils de Nougat qualifié RJ et de Herminette. Il est suivi du numéro 503. Se prénomme donc Soleil. Soleil né le 11 mars 2001. Qualifié reproducteur jeune à la station nationale de Lannion. Il appartient au gang Bourboulou, éleveur à Saint-Ibard, en Corrèze. C'est un fils d'Oslo et de Lady, vache qualifiée reproductrice reconnue.
Là, on voit bien la relation entre l'homme et l'animal, hein, de domination quand même, de maîtrise.
Oui, mais au niveau des familles, il y a une généalogie des familles vouées à l'élevage, comme il y a une généalogie des taureaux et des vaches et des animaux sélectionnés. Et c'est vraiment, c'est en termes de domination, mais aussi en termes de dialogue. Hein. Il y a une vraie compréhension de la conduite d'un élevage. Hein. Je veux dire, c'est quand même un grand métier.
C'est un grand métier quand il y a dialogue, quand il y a tout ce travail et cette fierté de le faire, ce qui est de moins en moins le cas pour les 670 000 agriculteurs français qui ont un pouvoir politique, qui représentent quelque chose, un électorat et aussi un pouvoir symbolique, tant ce salon le montre et les propos qui sont tenus le soulignent. Il y a quelque chose de symbolique, de profondément symbolique dans ces métiers et les produits et ce monde agricole. Mais ce salon-là, le dernier, celui qui vient de finir, s'est déroulé sur un fond de crise importante, aiguë pour les agriculteurs français, surproduction de lait, de porc, de volaille, de fruits dans la viticulture. Il y a la nouvelle PAC avec une baisse de subventions, avec l'élargissement de l'Europe. Il y a le problème des négociations avec l'OMC et l'ouverture de l'Europe à la concurrence mondiale. Il y a des problèmes dans les filières comme le lait. Et puis, il y a l'histoire, évidemment, que Gilles Luneau ne manque pas de connaître sur le bout des doigts, qui est le scandale de la FNSEA avec son président, l'ex-président Luc Guyot, qui a été mis en examen. Je vous rappelle que Gilles Luneau est l'auteur d'un bouquin sur, qui vient de sortir d'ailleurs, sur l'histoire de la FNSEA, qui s'appelle « La forteresse agricole ». On continue la balade au cul des vaches.
Dernier JT, les amis.
Comment tu t'appelles ?
Guilin, c'est une excellente réponse.
Bravo. Allez, viens, mon frère. Viens nous rejoindre.
Allez, viens.
Tu te mets à l'aise. T'as 15 ans de métier, t'es habitué. Attention.
Alors, attends, parce que en plus, c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de beurre et de lait. Hein.
Ton prénom ?
Guilin Masco.
Guilin, tu prends place.
Est-ce que le nom te dit quelque chose,
Guilin Masco ? Guilin Masco, attends.
Parce que c'est le vice-président des JA, jeunes agriculteurs.
Ah. Voilà. Allez, on y va. Guilin, face à toi la caméra. À côté, un assistant qui porte une superbe chemise Kenzo pour homme. Face à toi, le prompteur. Prends ton temps pour parler, pose tes mots.
Alors là, c'est le clou. Attention, du spectacle. Hein, de... Parce que là, on est dans un espace qui est parrainé par TF1 avec un vrai plateau de télé. Hein, on va avoir lieu le journal tout à l'heure. Et les produits laitiers.
Oui, c'est un double parrainage là, hein. C'est-à-dire que c'est l'interprofession laitière, donc et TF1 avec des parodies de journaux de 13h et avec au micro en fait le vice-président des jeunes agriculteurs, voilà.
Nous sommes chez nos amis des produits laitiers pour une édition spéciale consacrée à un produit que nous apprécions tous, le beurre. Nous aurons l'occasion de voir qu'il est synonyme de santé, beauté, naturalité et goût.
Le beurre et TF1, c'est formidable parce que dans le genre pour se faire du beurre.
Oui, le lait, c'est vraiment important. Enfin, le lait et les produits dérivés, c'est vraiment un secteur du marché, comme on dit, qui s'est énormément développé, hein, tous les produits laitiers. Donc, c'est un des plus gros annonceurs publicitaires. Oui, c'est pas étonnant qu'on retrouve un partenariat interprofession laitière et TF1. Aujourd'hui, un litre de lait vaut pas très cher et permet des bénéfices gigantesques. Hein, c'est-à-dire que on va vous le vendre plusieurs fois, entier, demi-écrémé, écrémé, mais en fait, à chaque fois, sans mauvais jeu de mots, l'industriel se fait son beurre dont jamais le paysan voit la plus-value. Hein, ils vendent un produit brut, c'est quasiment une ressource minière, vous voyez, et sur lequel se développe l'énorme industrie laitière. Aujourd'hui, avec l'ouverture du marché mondial, enfin l'ouverture, l'abaissement de la protection européenne et donc l'autorisation pour les industriels laitiers qui sont transnationaux, qui ont maintenant des intérêts sur toute la planète, hein, à quelques grandes firmes, je peux citer Nestlé, je peux citer Danone, ils vont pouvoir acheter des molécules, parce qu'on est en termes de molécules, des morceaux de lait déshydratés, à droite ou à gauche, où le prix de revient est beaucoup moins cher, où les conditions, on va dire, sociales et de production sont et de normes environnementales sont moins élevées qu'en Europe, pour faire leur yaourt. On va acheter du lait indien pour faire du yaourt en Espagne ou en Pologne.
Aujourd'hui, quand on avale un yaourt, on n'est pas sûr que le lait vienne d'Europe.
Ah non, pas du tout. Non, non.
Mais en tous les cas, c'est du lait en poudre, à la base.
Ah oui, on fait pas voyager des tankers de lait. Hein. Le lait, il est transformé plutôt dans sa région de production par l'industrie laitière. Il est déshydraté, mais on sépare la caséine, par exemple.
Pendant que vous me racontez tout ça, il y a des fermières qui sont passées là à l'instant, genre Maminova, enfin la fermière d'antan avec son corsage, sa robe, etc., avec ses sabots en bois. On est en pleine reconstruction, quoi. C'est vraiment la pub, hein.
Ouais, c'est une supercherie, surtout. C'est-à-dire que faire croire aux gens dans la publicité comme ça, la fermière rouge ou rose, etc. D'abord, moi comme rural, ça m'est insupportable. C'est-à-dire, c'est vraiment nous prendre pour des ploucs, hein, comme on disait dans le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, n'importe quel paysan et paysanne a fait des études, est habillé à peu près comme tout le monde, et il n'y a pas de différence de niveau intellectuel, culturel, etc. Faut arrêter avec ça, je veux dire. Et alors, simplement, on vend cette image-là pour rassurer les gens, comme si la campagne n'avait pas changé. En fait, la campagne, elle est très urbaine, finalement.
Je serais curieux de les retrouver pour voir qui c'est ces femmes. Si c'est des intermittentes du spectacle ou quoi.
crois qu'on a retrouvé nos figurants là.
Bonjour,
bonjour,
bonjour.
Vous avez des beaux costumes. On vous croirait sorti d'une pub pour Maminova ou la laitière ou je ne sais quoi.
On représente la Vendée.
La Vendée.
Ouais, on fait partie du Puy du Fou, du grand spectacle du Puy du Fou qui est en Vendée. On accueille près de 3000 bénévoles maintenant cette année.
C'est les envoyés du vicomte de Villiers.
Bah oui, puis fou, oui.
Ah, ils sont habitués dans la reconstitution, hein, et dans le trompe-l'œil quand même comme spectacle.
Trompe-l'œil. C'est le mot qui résume ce salon de l'agriculture, mais encore une fois, on sait bien, je crois qu'on, je sais pas quelle illusion se fait exactement, quelle est la part de vrai trompé, de vrai côté trop couillon, et puis conscient ou inconscient. Je crois qu'on est, quel est le degré de Dupri dans ce salon, je l'ignore, mais en tout cas, il y a véritablement Dupri sur les conditions de production, sur ce que nous mangeons, sur ce qu'on nous offre, ce qu'on nous vend, sur les conditions dans lesquelles tout cela est produit. Et puis effectivement la confusion entre l'homme et le produit passe absolument avant l'homme, il cavale derrière ce produit. Aujourd'hui on en est résigné à essayer d'opter pour le moins pire, on s'est résigné au moins pire. On parlera demain de ce programme du Conseil National de la Résistance, à des époques où il y avait un souffle on va dire politique, un souffle de imagination politique. Vous allez voir le contraste entre aujourd'hui et demain, mais là pour l'instant on est toujours dans ce salon.
Voilà Jojo, come on everybody, monsieur, venez prendre place pour le célèbre quiz international proposé par la FNSEA. Attention, qu'est-ce que la FNSEA? Est-ce que c'est un groupe de rock, un syndicat agricole ou la société qui organise le salon de l'agriculture? Nous allons le savoir dans quelques instants. Attention, ils se saisissent du boîtier. C'est terrible, ils vont taper 1, 2, 3. Ils vont le taper, ils vont le faire. Attention, c'est tout chaud, c'est tout froid, c'est tout. Ils ont tapé, regarde. Nous allons voir, ils ont choisi un syndicat agricole. C'est effectivement le syndicat agricole, la FNSEA, votre syndicat agricole préféré.
Le co-organisateur du salon, c'est la FNSEA, ce que vous nommez la forteresse agricole dans votre livre.
Ça veut dire simplement que dans la vie d'un paysan, la FNSEA est incontournable, parce qu'elle tient les chambres d'agriculture, que ce sont des administrateurs de la FNSEA qui sont au Crédit Agricole pour les emprunts, qui gèrent l'assurance Groupama, qui gèrent la mutualité sociale agricole, qui gèrent les coopératives, etc. Je veux dire, à chaque étape de la vie du paysan, il y a un guichet unique FNSEA.
Et ça a été le vecteur d'une politique depuis des années pro-agriculture intensive.
Oui, c'est-à-dire que c'est au départ, c'est simplement parce que il y a eu un pacte entre l'État et la FNSEA pour moderniser l'agriculture, pour nourrir la France. Bon, alors le syndicalisme étant unique, en fait, on est en face d'un syndicat unique, hein, dans une vision léniniste de l'histoire, hein, finalement, c'est lui qui porte la modernisation. Ce sont les techniciens agricoles, des chambres d'agriculture contrôlées par le syndicat, des associations contrôlées par le syndicat, qui portent le vent de la modernité en campagne. Avec un modèle unique, hein, conseillé par la science et les ingénieurs agronomes, on a comme ça une fusion de l'esprit collectif du syndicat, de l'esprit modernisateur, en gros la science a tout pouvoir et le progrès est inéluctable et c'est une marche continuelle, et c'est important, l'aspect, on va dire, missionnaire, bon samaritain de la jeunesse agricole catholique qui dirige toutes ces organisations-là et qui a l'impression, en gros, d'œuvrer à l'avènement du Christ en portant la bonne parole du tracteur dans les campagnes.
Bonjour, je suis de la Provence. Et je suis déçu parce qu'il n'y a pas de trieuse, il n'y a pas de machine portant les brebis. C'est le marché de l'agriculture, mais...
Vous êtes éleveur, vous?
Oui, mais je suis déçu. Je suis venu de Marseille, dans la région de Provence de Marseille, exprès. Je suis très déçu. Je comprends pas qu'il n'y a pas de triage pour chèvres, pas de triage pour les brebis, pas de triage pour les vaches. Et ça fait partie de l'agriculture, non?
Ça vous donne quelle impression, alors, ce salon-là? Vous avez l'impression
commercial,
que c'est...
Commercial, comme toujours, commerce. 30 francs un sandwich, c'est commercial. Je suis un pauvre routier, monsieur. Que je travaille 20 heures sur 24 pour gagner ma vie.
Vous conduisez des camions pour vous en sortir?
Je suis routier. J'arrivais plus à vivre. On est toujours dans le même genre. La campagne, c'est fini. Comme la région PACA chez nous, monsieur. Ce qui intéresse, c'est de vendre des terres pour faire des maisons et gagner des sous. Ça, c'est intéressant.
Là, on voit toutes ces variétés de vaches. Là, on est en face des Montbéliard, Normande, Limousine, Simmental, bon, Abondance. Quand on regarde la réalité du troupeau français, je veux dire, il est à 90% sur une seule race de vaches.
Ah oui?
Ben oui, bien sûr, de la Primolstein, ce qu'on appelle les tréteaux à lait. Quoi. On peut aller les...
90%, c'est la même vache en France.
En vache laitière, oui, en vache laitière. Hein. Bon, en race à viande, il y a une plus grande diversité parce que les éleveurs de viande ont...
Mais ça n'a pas été toujours le cas, j'imagine.
Non, du tout. Mais là, c'est une normalisation pareil. C'est une normalisation par les filières, on va dire, agroalimentaires, hein, qui formatent la production. Donc, pourquoi la Primolstein? Parce qu'on a développé une espèce de vache entièrement vouée à la production laitière, hein. C'est une vache qui porte, en fait, c'est des tréteaux, hein, c'est quatre pattes qui portent d'énormes pies pour faire pisser le lait. Rien à voir avec les multiples vaches qui étaient très liées au terroir. Je dis pas ça avec une arrière-pensée de regret, mais je veux dire qu'il y a une adaptation des plantes comme des animaux au sol sur lequel elles vivent, hein, de par les plantes que ces herbivores consomment, ce qui donne des qualités de lait différentes. Dans les Alpes, vous avez encore heureusement les abondances et les tarines qui permettent de faire le reblochon, le beaufort, enfin tous les fromages alpins. En Bretagne, vous aviez la petite la nantaise et la bretonne qui faisaient de l'excellent beurre, hein, parce qu'elles avaient un très gros taux butyrique dans le lait. Ça, elles ont disparu quasiment. Aujourd'hui, on a sauvé les dernières représentantes de ces espèces-là pour on fait des conservatoires. Voilà, on fait des conservatoires et on va vous
on est dans le musée, quoi.
Oui, c'est presque ça. Il y a que les zones d'AOC, hein. Sinon, tout le reste, c'est rien, quoi. Je veux dire, on mélange tout. Et la plupart du temps, on mélange en gros du lait frais d'Holstein avec du lait en poudre d'Holstein. Ben oui, si vous voulez. Par exemple,
moi, on va ressortir déprimé de cette conversation.
Non, mais je peux poser une question. C'est une question, j'ai pas la réponse, mais on devrait pouvoir la trouver auprès des organismes compétents. C'est-à-dire Camembert made in Normandie, hein. Le Camembert normand. Qui était un fromage fait avec, on est au pied de la race normande, elle est juste côté de l'autre travée,
ouais, ouais.
Avec du lait des Normandes, le camembert, je ne connais pas la proportion, mais je pense pas me tromper si je dis la majorité, je pense que c'est les deux tiers des camemberts vendus, ne sont pas faits avec du lait de vache normande. Et ils sont plus faits en Normandie, ils sont faits en Bretagne, ils sont faits n'importe où il y a des laiteries qui transforment du lait industriel.
Non.
Mais bien sûr que si. Et camembert n'est même pas une marque protégée.
Le camembert courant qu'on achète en supermarché, c'est tout sauf un produit normand, quoi.
Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, faut pas rêver. Mais c'est comme les gruyères, on vous fait les gruyères en Bretagne. Gruyère, camembert, c'est bidon.
En expert, Jacques Chirac s'est intéressé aux performances des vaches Primolstein landaises qui récemment ont participé à des concours en Belgique. Mais les caresses présidentielles n'ont pas stressé outre mesure ces championnes. C'est en tout cas l'avis de leurs éleveurs.
Elles l'ont vu que, comment dirait, derrière. Elles l'ont pas vu en face. Il n'est pas passé devant, il est passé derrière. Alors les vaches n'ont pas eu le temps de trop le voir. Puis, elles ne voient pas la télé comme nous, alors. Ça les choque beaucoup moins.
En marron, là. Ça, c'est quoi? Tout à l'heure, on a parlé de céréales. Les céréales, les pommes de terre, ça fait partie de quoi?
Des féculents?
Exact, bonne réponse. Et pourquoi est-ce qu'il faut manger des féculents? Un, deux.
De la force?
De l'énergie. Allez, de l'énergie, on est parti. D'accord, c'est bien. Tu vois, les produits laitiers, il faudrait peut-être que tu en prennes un petit peu plus. D'accord? On a dit que c'était bon. Pourquoi les produits laitiers?
Pour les os.
Pour les os, parce qu'il y avait quoi? Il y avait du
calcium.
Calcium, très bien. Alors après, la viande, ça va. On a dit qu'il fallait prendre un peu de poisson. Donc le bilan, un peu plus de produits laitiers. Ok, c'est bon? Allez.
Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle?
Alors, on essaye d'expliquer aux enfants s'ils mangent équilibré. Donc, pour ça, on leur demande ce qu'ils ont mangé tout au long de la journée.
Donc, alors, vous avez des fiches, là, hein, voilà. Des espèces d'images, hein, que vous mettez en avant sur un présentoir, hein.
Et alors,
qui représentent autant de, quasiment, de produits Nestlé. Pour certains, c'est pas identifié, mais pour d'autres.
C'est aussi des produits que les enfants peuvent avoir l'habitude de manger.
Enfin, là, on voit quand même l'affiche pour les produits laitiers. C'est Nesquik, Ricoré. Les jus de fruits, mousseline pour les féculents, la purée, vitel pour l'eau.
Tout à fait, et ils choisissent pour chacun des repas les aliments qu'ils ont l'habitude de prendre. Et après, on construit donc cette pyramide pour voir si c'est équilibré, s'ils ont des carences dans certains types d'aliments.
Qu'est-ce qu'il faut que tu manges plus, toi?
Des produits laitiers.
Alors, c'est quoi les produits laitiers?
Flambi, crème lit.
Il y a un truc trop bon dans mon Yoko Shop. Enfin, chut.
Crème de lait. Hey, mais aussi le chocolat caché à l'intérieur.
Viens, on fonce.
Mon Yoko Shock, maintenant il est bien caché.
Yoko Shock, le chocolat, il est caché à l'intérieur.
Ciao, signé Nestlé.
Eh oui, on est loin du rêve du début de l'émission, la nature, la campagne, la luzerne, le bol de lait du matin, quand le jour se lève. Ah oui, marcher dans la rosée, tout ça, c'est devenu tout ça. Triste constat, mais il y a de la résistance, comme partout, comme toujours. Il y a des paysans qui se défendent, il y a des syndicats qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Voilà, on en est là aujourd'hui, on va finir cette visite au salon de l'agriculture avec Gilles Dulot.
On pourrait penser que l'élargissement européen soit l'occasion d'une grande remise à plat au niveau de toute l'Europe et de la Commission européenne.
Parce que ça, c'est le grand chantier de demain. Hein. Enfin, c'est déjà en cours. Hein. C'est l'élargissement. Hein.
Ouais, c'est le mois de mai, hein, déjà. Ça commence au mois de mai, puis ça va s'allonger jusqu'à 2013, hein, de la manière dont c'est pensé. Et à aucun moment, on a remis en cause ce modèle européen qui est en faillite. Même s'il a été bon dans les années 60, il est en faillite depuis la fin des années 70. Et on essaye de transposer ce modèle-là aux pays entrants. Alors qu'en fait, eux, c'est une fantastique réserve de terres pas vraiment matraquées, comme on dit chimiquement, et on aurait pu faire basculer l'Europe en bio. C'est une question de volonté politique, mais là, il n'y a plus de volonté politique. Là, aujourd'hui, la politique européenne, elle se décide comment? Elle se décide pour partie par les technocrates. Je ne vais pas en faire procès. C'est simplement, derrière les technocrates, c'est les expertises des grandes multinationales qui disent voilà ce qu'il nous faut. On ne demande pas, ni aux citoyens, ni aux agriculteurs, ce qu'ils veulent. On part des besoins de l'agro-industrie, des grandes multinationales, dont on a croisé quelques exemplaires tout à l'heure.
Voilà, merci à Gilles Luneau. Je vous rappelle son bouquin, La forteresse agricole, c'est-à-dire la FNSEA aux éditions Fayard. Le reporter, vous l'aviez reconnu, c'est Thierry Scharf. Demain, une émission de reportage de Guy Vanctil sur le Conseil National de la Résistance, le programme du Conseil National de la Résistance, dont les 60 ans sont célébrés ces jours-ci par Attac. Vous avez le programme sur www.france.attac.org. Il y a également au siège du Parti communiste le 15 mars à 17h, place du colonel Fabien, des conférences et des rendez-vous sur ce programme. Technique aujourd'hui, Henri Bérec et Sébastien Royer, assistant Coyenne Guyenne, assistante Anne de Giaferi. Numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'est Christophe Humbert qui vous écoute au bout du répondeur et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.